Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une pièce de Molière qui n'est sans doute pas parmi celles qui sont le plus souvent jouées actuellement, Le Misanthrope, qui date de 1666. La pièce est appelée Le Misanthrope à l'origine. Quelques années plus tard, on a rajouté un sous-titre, Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux. Atrabilaire, celui qui est irritable, qui est coléreux, qui s'énerve facilement. Alors, 1666, il faut savoir que un an auparavant, Molière avait fait représenter une de ses pièces majeures, Don Juan. L'année précédente, en 1664, c'était le Tartuffe. Signalons quand même que entre Don Juan et le Misanthrope, il y a eu une pochade en un acte, L'amour médecin. Alors, pourquoi est-ce que le Misanthrope n'est pas aussi populaire, aussi souvent joué que les autres pièces? Il y a plusieurs explications possibles. Pourtant, on peut se souvenir que Boileau considérait que Molière était avant tout l'auteur du Misanthrope. Alors, peut-être une des explications, c'est que le personnage d'Alceste, le personnage principal, le Misanthrope, est très difficile à saisir. Est-ce qu'il doit être joué de façon dramatique, comme aimeront tant le faire les romantiques? Est-ce que c'est dans la douleur? Est-ce que c'est un bouffon? Par contre, le personnage féminin principal, Célimène, lui, a tenté les plus grandes comédiennes. Il est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont mémorables. Alors, je vous propose de commencer par le commencement, si j'ose dire, le début de la pièce. Le début de la pièce, ça commence par une scène de dispute. Molière aimait assez ce genre d'introduction, ce genre de première scène. Rappelons pour mémoire que c'est ainsi que commencent les femmes savantes, avec une scène entre les deux sœurs. Alors voici la première scène du premier acte du Misanthrope de Molière, en scène Alceste, donc, le Misanthrope, et Philinte, son ami. Philinte, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Philinte, mais dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre, et quoi qu'amien, enfin, je suis les tout premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Philinte, je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je veux voir accabler un homme de caresses, témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous ne le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Philinte, je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pendez pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Philinte, lorsqu'un homme vient vous embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non. Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je n'ai rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent tout de même l'honnête homme et le fat. Quel avantage a nom qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsque premier faquin, il court en faire autant. Non, non, il est moins d'âme, un peu bien situé, qui veut d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on vous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde, et c'est d'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande. Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblants d'amitié. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Philinte. Il est bien des endroits où la plaine franchie deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mille gens tout ce que d'eux on pense? Quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sait mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. Adorez-las qu'il est trop important, qu'il n'est à la cour oreille qui ne lâche à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien. Vous vous moquez. Et c'est ainsi que se poursuit la conversation entre Philinte et Alceste. Et voici qu'arrive une connaissance des deux personnages, Oronte. Oronte, qui n'est pas forcément un homme désagréable, mais qui a la manie d'écrire des vers, qui sont d'une qualité plus que médiocre. Voici donc Oronte. J'ai su là-bas que pour quelques emplettes, Éliante est sortie et Célimène aussi, mais comme on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable, et que depuis longtemps, cette estime m'a mis dans un ardent désir d'être de vos amis. Oui, Mon cœur au mérite est ma rente justice et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse. Je crois qu'un ami chaud et de ma qualité n'est pas assurément pour être rejeté. L'estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre, il y a de tout l'univers. Vous la pouvez prétendre, monsieur. L'état n'est rien qui ne soit au-dessous du mérite éclatant que l'on découvre en vous, monsieur. Oui, de ma part, je vous tiens préférable à tout ce que j'y vois de plus considérable, monsieur. Suis-je du ciel écrasé si je mens? Et pour vous confirmer ici mes sentiments, souffrez qu'à cœur ouvert, monsieur, je vous embrasse et qu'en votre amitié, je vous demande place. Touchez-la, s'il vous plaît. Vous me la promettez, votre amitié, monsieur. Quoi ? Vous y résistez ? À cette, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire. Et auront en arrive à la raison véritable de sa visite. Et comme votre esprit a de grandes lumières, je viens pour commencer entre nous ce bonheur, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu, et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose. Alceste, monsieur, je suis malpropre à décider la chose, veuillez m'en dispenser. Pourquoi ? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. Finalement, Auron arrive à placer son sonnet. Sonnet, c'est un sonnet. L'espoir, c'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. Honte. L'espoir, il est vrai, nous soulage, et nous berce un temps notre ennui. Mais, Phyllis, le triste avantage lorsque rien ne marche après lui. Philinte, je suis déjà charmé de ce petit morceau. Alceste, quoi ? Vous avez le front de trouver cela beau. Oronte, vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir, et ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Philette, ah, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Alceste, morbleu. Ville complaisant, vous louez des sottises. Oronte, s'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire, belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours. Philinte, la chute en est jolie, amoureuse, admirable. Alceste, la peste de ta chute, empoisonneur au diable. En eût-tu fait une à te casser le nez. Philinte, je n'ai jamais ouï de vers si bien tournés. Alceste, morbleu. Oronte, vous me flattez, vous croyez...
Non, je ne flatte point.
Mais pour vous, vous savez quelle est notre tête. Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Et Alceste, incapable de mentir, finit par lui dire la vérité. Voilà qui va fort bien, Auront, et je crois vous entendre, mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet, franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous êtes réglé sur de méchants modèles, et vos expressions ne sont point naturelles. Je vous propose une première pause musicale. Au deuxième acte du Misanthrope, on va enfin arriver le personnage principal, Célimène. Et Alceste, avec sa diplomatie habituelle, commence par lui faire des reproches. Madame, voulez-vous que je vous parle net ? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement, tôt ou tard, nous romprons indubitablement et je vous permettrai mille fois le contraire que je ne serai pas en pouvoir de le faire. Célimène, c'est pour me quereller donc à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Alceste, je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on vous voit vous obséder et de mon cœur, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur, à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ceux qu'attirent vos yeux. Célimène, qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis? Alceste, perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Célimène, mais de tout l'univers, vous devenez jaloux? Alceste, c'est que tout l'univers est bien reçu de vous. Célimène, c'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous épanchée. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous ne la voyez sur un seul ramassé. Alceste, mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Célimène, le bonheur de savoir que vous êtes aimé. Alceste, et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Célimène, je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Alceste, mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en direz peut-être aux autres tout autant? Oh, Célimène, certes. Pour un amant, la fleurette est mignonne et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Alceste, morbleu, faut-il que je vous aime? Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le scelle pas, je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible, mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici, et c'est pour mes péchés que je vous aime aussi. Et la scène va se poursuivre, et on voit arriver un ami, enfin disons une connaissance, et Célimène va révéler sa véritable personnalité, ou plutôt son absence de personnalité. Elle va, dans une série de portraits rapides, descendre en flèche tous les gens du monde qu'ils ont l'occasion de fréquenter. Ainsi, à propos de Cléante, dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Pourtant, partout, il porte un air qui saute aux yeux d'abord, et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagance. Damon, c'est un parleur étrange et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais goutte et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute. Timante. C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère qui vous jette en passant un coup d'œil égaré et sans aucune affaire est toujours affairé. Tout ce qu'il vous débite en grimant sa bonde, à force de façon, il assomme le monde. Sans cesse, il a tout bas pour rompre l'entretien un secret à vous dire. Et ce secret n'est à rien. De la moindre vétille, il fait une merveille, et jusqu'au bonjour, il dit tout à l'oreille. Gérald, oh l'ennuyeux conteur, jamais on ne le voit sortir du grand seigneur dans le brillant commerce qui se mêle sans cesse, et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. La qualité l'entête et tous ses entretiens ne sont que des chevaux, d'équipage et de chiens. Et la scène se poursuit ainsi, jusqu'à ce que arrive en scène une deuxième femme, rivale de Célimène, disons une femme d'un certain âge, prude, à son corps défendant, et qui commet la faute irréparable de venir donner des conseils à Célimène. Arsinoé. Il n'est pas nécessaire, madame, l'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Et comme il n'y en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens, par un avis qui touche votre honneur, témoigner l'amitié que pour vous en mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière où sur vous du discours on donna la matière. Et là, votre conduite, avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie, les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quelle partie je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusais fort sur votre attention et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est contre fâcheux que partout on en fasse, et que si vous vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. La réplique de Célimène ne se fait pas attendre. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige et est loin de le mal prendre. J'en prétends reconnaître à l'instant la faveur par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, furent tombés sur vous, madame l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternel de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures, tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste. Elle est à bien prier exacte au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paye point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Alors, Arsinoé, dépité, cherche à captiver le cœur d'Alceste, mais finalement, la rencontre entre Alceste et Célimène n'ira pas plus loin, et Alceste va décider de se retirer dans le désert. Alors, cette pièce a eu une suite assez extraordinaire. Je vous conseille, si vous ne le connaissez déjà, de lire une pièce en un acte de Georges Courteline, créée en 1905 à la Comédie-Française, La conversion d'Alceste. C'est un petit bijou. Je signalerai aussi que il y a eu un autre misanthrope, beaucoup moins connu, écrit par Fabre d'Églantine. Oui, Fabre d'Églantine, le poète qui a écrit Il pleut bergère, avant de devenir l'ami de Robespierre avec lui sur l'échafaud. Il y a aussi un vaudeville au XIXe siècle. Un vaudeville de Eugène Labiche, le misanthrope et l'auvergnat. Et je conclurai en citant ces vers qu'Alfred de Musset a écrit en pensant précisément au misanthrope de Molière. Cette pâle gaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, il faudrait en pleurer. Peut-être que Musset a mis sans le vouloir le doigt sur l'insuccès relatif du misanthrope de Molière. Une comédie n'est pas forcément destinée à faire pleurer les gens. Et je vous remercie de m'avoir écouté.